Bonsoir à toutes et à tous. On va démarrer à l'heure pour ce dernier conseil communautaire de cette mandature. Et puis vous respectez aussi les supporters du Paris Saint-Germain. Je vais vous demander de... Alors, je vous laisse faire l'appel.
Madame Chantal Ploncheneau. Monsieur Nicolas Tachon, absent, donne pouvoir à monsieur Jean-Paul Gantier. Madame Stéphanie Chédad. Monsieur Guy Parella. Excusez. Madame Pascal Horry. Monsieur Jean-Marie Badby. Madame Marina Bancon, absente, donne pouvoir à monsieur Hervé Bayard. Monsieur Renaud Laïtette. Madame Elisabeth Soulignac. Monsieur Didier Simon. Monsieur Michael Aulnet. Madame Véronique Glaise. Monsieur Michel Garcia. Monsieur Philippe Saès. Madame Florence Thomas, absente, donne pouvoir à monsieur Philippe Saès. Monsieur Jean-Louis Dariotor. Madame Régine Nellig. Monsieur Joël Bonnet. Madame Delphine Salambier. Monsieur Bernard Kruzinski. Madame Marie Denis. Monsieur Olivier Boisset. Madame Laetitia Tachon, absente, donne pouvoir à Madame Marie-Denis. D'accord. Monsieur Éric Messrich. Madame Marilyn Rousseau. Monsieur Denis Capdeviol. Monsieur Pierre Mallet. Madame Marie-Christine Lamotte. Monsieur Jean-Yves Paronneau. Monsieur Christian Senet. Monsieur Dominique Lavé. Madame Jeannette Deletré. Monsieur Frédéric Carrère. Présent. Monsieur Jean-Marie Esquier. Monsieur Guy Sibu, absent, représenté par Madame Rose Dupouille. Monsieur Jean-Paul Alire. Monsieur Jean-Pierre Allais. Présent. Monsieur Claude Coumat, absent, donne pouvoir à Monsieur Michel Garcia. Madame Catherine Demême, absente, donne pouvoir à Madame Véronique Glaise. Monsieur Charles Daillot. Monsieur Hervé Bayard, Madame Muriel Croze, Monsieur Bertrand Tortigue, absent, donne pouvoir à Madame Eliane Darteron, Madame Marie-Christine Bourdieu, Madame Geneviève Dariussec, absente, donne pouvoir à Monsieur Charles Daillot, Madame Chantal Davidson, Monsieur Farid Eba, Madame Eliane Darteron, Monsieur Antoine Vigneau-Tuquet, Madame Catherine Piquet, Monsieur Jean-Paul Gantier, Madame Catherine Dupouille, absente, donne pouvoir à Madame Catherine Piquet. Monsieur Gilles Chauvin. Madame Chantal Couturier. Et Monsieur Bruno Ruffia.
Merci. Donc je vous propose pour ce conseil communautaire, sans plus tarder, avant de rentrer dans l'ordre du jour, de pouvoir tout de suite intervenir sur le procès-verbal de la séance du 12 décembre 2019. Et vous demander si vous avez des remarques par rapport à ce procès-verbal. Pas de remarques, donc je vous le soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. J'ai été amené à prendre des décisions en tant que président de l'AGLO sur la période passée. Donc vous avez un relevé de décision qui est à votre disposition. C'est la période du 28 novembre au 3 février 2020. Y a-t-il des remarques particulières? Pas de remarques. Là, c'est pour information. Donc, nous allons rentrer dans les délibérations. Et je vous propose d'enchaîner tout de suite sur la délibération numéro 3. Je vais passer la parole à Hervé Bayard pour vous présenter, non pas une délibération qu'on vote, mais simplement prendre acte d'un débat et d'un échange éventuel sur les orientations liées à notre nouveau règlement local de publicité à l'échelle de l'agglomération. Hervé Bayard.
Merci, Monsieur le Président. Donc, en effet, il s'agit de parler de publicité, puisque la publicité extérieure est un élément essentiel de l'amélioration du cadre de vie et la lutte contre les nuisances visuelles sur notre territoire, en particulier dans la zone urbaine et sur les grands axes de circulation. Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont sont dotées chacune d'un règlement de première génération qui sera caduque prochainement. À ce titre, Mont-de-Marsan Agglomération s'est engagée dans l'élaboration d'un règlement local de publicité intercommunale, appelé communément RLPI, le 8 mars 2017. Après une phase de diagnostic du territoire en 2018, une concertation a eu lieu entre septembre et octobre 2019 avec le public et les professionnels. Il s'agit, comme l'a indiqué Monsieur le Président, il s'agit aujourd'hui de porter à votre connaissance les 12 orientations et les 5 zones issues de la concertation. Alors parmi les 12 orientations, il y en a 4 qui sont d'ordre général et qui concernent à la fois les publicités et les enseignes. Exiger une qualité de matériel et d'entretien pour tous les dispositifs, mais aussi protéger les espaces paysagers dans les secteurs agglomérés, créer un itinéraire touristique sans publicité, fixer des horaires d'extinction pour tous les dispositifs éclairés. Il y a également 5 orientations qui concernent exclusivement les publicités, comme par exemple interdire la publicité dans les centres-villes, limiter la densité en zone d'activité économique, réduire les formats publicitaires, laisser une liberté sur le mobilier urbain publicitaire ou autoriser et encadrer la publicité numérique. 3 orientations, enfin, concernent exclusivement les enseignes. Réduire l'impact des scellés au sol, intégrer les enseignes murales dans l'architecture du bâtiment ou encore limiter l'utilisation des clôtures et des enseignes en toiture. Alors concrètement, ce vers quoi on s'oriente conduirait à l'échelle de l'agglomération à supprimer 55% des panneaux publicitaires, donc un signe de notre volonté de retrouver un paysage qui soit plus harmonieux, mais également conduirait à identifier des secteurs qui seraient déclarés sans aucune publicité. Et puis, comme par exemple le boulevard d'Alinxos, l'avenue de Villeneuve, l'avenue Éloi-Ducombe à Mont-de-Marsan, identifier également des périmètres qui seraient paysagers, comme les rivières, ou encore intégrer des périmètres qui seraient considérés comme historiques. Et donc à la fois pour les périmètres paysagers et historiques, vous en doutez bien, aucune publicité ne serait autorisée. Mais donc ce vers quoi également on s'oriente nous conduirait également à une diminution drastique des formats d'enseignes scellées au sol, nous conduirait également à l'extinction entre 23h et 7h du matin des panneaux lumineux numériques. Tout un ensemble l'ensemble du dispositif nous conduirait, comme je le signale, véritablement à retrouver davantage d'harmonie dans notre paysage urbain. Le bilan de la concertation et l'arrêt du RLPI pourrait être proposé au Conseil communautaire en avril ou mai 2020, puis une enquête publique en septembre-octobre 2020 pour une approbation du règlement en décembre 2020. Les publicitaires auront ensuite 2 ans et les commerçants 6 ans pour mettre en conformité leur dispositif. Au préalable, les communes de l'agglomération ont été amenées à délibérer sur ces orientations.
Est-ce qu'il y a des remarques sur ce qui n'est aujourd'hui qu'à l'état de débat ? Donc simplement qui fait aussi suite à de nombreuses réunions, y compris avec les acteurs de ces métiers-là, les annonceurs et autres. Vous donnez simplement un ordre d'idée de grande masse, 200 panneaux à peu près, sur Mont-de-Marsan. L'application de ce règlement en ce qui concerne la commune de Mont-de-Marsan, c'est 100 panneaux de moins, 99 exactement, à terme. En termes de pollution visuelle, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc là, il n'y a pas de vote sur ce dossier. Je vais laisser la parole à Hervé Bayard pour nous parler d'une cession de terrain.
Merci, Monsieur le Président. En effet, il s'agit de céder un terrain à XL Habitat, chemin de Mingotte, un terrain appartenant bien sûr à la communauté d'agglomération. C'est dans le cadre donc de la fermeture du site de Canex. Nous avons été amenés à reloger des gens, ce qui a été fait. Et donc XL Habitat, à l'issue de ce relogement, nous a proposé donc de faire l'acquisition de ce terrain pour y construire des maisonnettes. Et donc cette cession se fait à l'euro symbolique.
Merci. Y a-t-il des questions ? Non. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est voté à l'unanimité. Je passe la parole à Pierre Mallet concernant une cession de terrain sur la zone de Mamoura. Pierre Mallet.
Oui, merci. Cette délibération vous propose de valider la vente d'un terrain, le lot 3B de 4266 mètres carrés, dans la zone parc d'activité de Mamoura Nord à la société SARL Adour Chambre Froide pour développer son activité au prix de 28 euros hors taxe le mètre carré, prix qui avait été déterminé par le conseil communautaire.
Merci. Est-ce que vous avez des questions sur cette session ? Pas de questions. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Nous avons ensuite une série de 3 ou 4 délibérations que je vais vous présenter puisqu'elles traitent de différentes aides qui peuvent être attribuées à des entreprises. On va commencer par la numéro 6. Il s'agit d'une aide au commerce et à l'artisanat de proximité pour une structure qui va s'installer d'ailleurs en centre-ville sur Mont-de-Marsan. Je rappelle, pour situer les choses par rapport aux 4 délibérations que vous allez voir, que nous avions voté et mis en place un dispositif avec notre cellule de développement économique, avec des liens avec la région aussi, des subdélégations, des aides à l'innovation. Nous pouvons verser jusqu'à 50% d'une facture dans la limite de 10 000 euros sur la partie innovation. Nous pouvons verser pour le commerce et l'artisanat de proximité de centre-ville ou de centre-bourg jusqu'à 5 000 euros. Ça correspond à 30% d'une facture. Et là, on parle soit d'aménagement du point de vente extérieur ou intérieur, soit de déploiement ou d'outils numériques. Donc vous verrez que dans les cas qu'on va vous présenter là, ça va dans l'un ou dans l'autre. Tout ça vient en complément des différentes mesures qui existent et qui sont plus indépendantes de notre volonté. Notamment, vous repréciser qu'il y a la période de ZRR, de zone défiscalisée, est prolongée. Elle devait s'arrêter en juin, elle est prolongée jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31-12-2020, ce qui est important en matière d'exonération de charges sociales ou d'IS. Donc pour rentrer dans ces délibérations, sur la 6, on vous parle de la SAS Naboa Begins. C'est ni plus ni moins qu'une structure qui va commercialiser des produits haut de gamme de cacao avec un concept bio, mais également pâtisserie, glace, thé, etc., salon de thé, qui sera situé non loin de la place Saint-Roch, qui nous a sollicité pour une boutique de centre-ville et une aide correspondant à 30% du montant hors-taxe des dépenses EJ plafonnées à 5 000 euros. La dépense globale est de 40 967 euros. Donc nous vous demandons de nous suivre pour pouvoir accorder cette aide de 5 000 euros à cette structure. Est-ce que vous avez des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Ensuite, la délibération, c'est voté à l'unanimité. La délibération numéro 7, là aussi, on est sur un commerce de centre, de cœur d'aglo, de centre-ville, commerce que vous connaissez pour cause, puis qu'il avait subi un incendie le 29 août 2019, il y a déjà presque 6 mois. Le commerce de Gilles Ducos est une affaire individuelle, à la fois de négoce de maroquinerie et de chaussures, mais aussi surtout de réparation et de cordonnier. Nous avons été saisis d'une facture, enfin de dépenses éligibles d'une valeur de 39 000 euros. Et donc là, on passerait avec une aide de 5 000 euros. C'est dans le cadre de l'aide au commerce et l'artisanat pour remettre en état son atelier, aménagement du magasin. Simplement vous dire, pour ceux qui connaissent ce commerce-là, que ça y est, les travaux ont attaqué, le bâtiment et la couverture est quasiment faite. Le bas de l'atelier et la réserve, qui était son outil de travail, sont en cours. Et cette aide-là lui permet d'accélérer la livraison des machines qui vont lui permettre de reprendre son activité le plus rapidement possible, ce qu'on lui souhaite. Donc il s'agit de nous donner un accord, si vous le souhaitez, pour qu'on l'accompagne à hauteur de 5 000 euros. Est-ce que vous avez des questions, Monsieur Laïtet ?
Pas de questions, juste je ne peux pas participer à ce vote puisque j'assure sa défense, par ailleurs.
Donc, en notant que Renaud Laïtet ne participe pas au vote, est-ce qu'il y a des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. C'est voté à l'unanimité. Sur la 8, nous allons là également vous parler d'une aide individuelle aux entreprises et à l'innovation sur la SASU Ténor PMO, pour laquelle Olivier Boissé, donc ici présent, ne participera pas au vote. Je l'en remercie, puisqu'il est acteur principal de cette SAS, unipersonnelle. J'espère, cher Olivier, ne pas faire d'erreur dans les intitulés concernant votre activité. Gestion de projets technologiques, vous développez des solutions. Cette entreprise développe des solutions logicielles pour des outils d'aide à la décision aux TPE, PME, aux petites entreprises. sur ce qui permet d'ailleurs dans un créneau à ces petites entreprises de pouvoir parfois éviter de devoir recourir à des gros outils un peu coûteux d'aide à la décision. J'ai vraiment, vraiment synthétisé tout ça. Donc là, dans des domaines que sont la finance, le commercial, les produits et les services, simplement vous dire que nous sommes sur une dépense de 50%, plafonnée à 10 000 euros et sur la base d'un investissement qui est de 56 191 euros. Nous vous demandons de nous suivre pour pouvoir octroyer cette aide à cette entreprise. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Et donc je rappelle que M. Boissé ne prenait pas part au vote. Ensuite, la dernière, dans le même ordre d'idées. Il s'agit non pas de Isabelle d'Anjou Coiffure, mais de Juliette d'Anjou Coiffure. Donc vous modifierez à la fois sur la page de garde et sur la délibération qu'il s'agit de l'entreprise Juliette d'Anjou Coiffure, située 58 bis avenue de l'Armagnac. Il s'agit d'un commerce qui est à Bougues. Là également, sollicite une aide dans le cadre de l'aménagement de son commerce. Le montant éligible est de 6 154,42 € hors taxe. Et il s'agit de lui accorder une aide de 1 846 € dans ce cadre. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, s'il n'y a pas de questions, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. J'essaye de trouver, juste pour votre information, je me l'étais toté, l'enveloppe qui est budgétisée. Je crois que c'est une enveloppe de l'ordre de 60 000 € à peu près. L'enveloppe globale, pour que vous ayez un ordre d'idée, dans ce qu'on vient de passer là, on est à peu près 20 000 €. Voilà. Donc on a aussi une vigilance par rapport à ça, sur ces aides-là, mais on voit que ça peut booster des projets. Donc la dernière, on a voté, la 9. Je l'ai fait voter la 9 ou pas ? Ok, c'est bon. Donc c'est voté à l'unanimité. Je vais passer la parole maintenant à Bernard Kruzinski sur les délibérations suivantes, a priori la 10 et la 11, puisqu'il s'agit de modifier des statuts de nos régies de l'eau et de l'assainissement suite à l'arrivée de nouveaux venus comme Bostens, Luc Bardès et Saint-Avit. Bernard Kruzinski.
Oui, merci Monsieur le Président. Donc depuis le 1er janvier 2020, le périmètre de la régie de l'eau s'est agrandi donc aux trois communes citées précédemment, donc Bostens, Luc Bardès et Bargues et Saint-Avit. Nous avions un conseil d'exploitation qui était composé de 15 membres répartis en 9 conseillers communautaires et 6 personnes désignées pour leurs compétences ou activités techniques. Sachant qu'on intègre donc les trois communes précitées, on vous propose donc de passer le conseil d'exploitation à 20 membres qui se décompose en 12 conseillers communautaires et 8 personnes désignées pour leurs compétences techniques. Sachant qu'il est dit dans cette délibération que cet renouvellement sera accompli à partir du renouvellement des assemblées communales à partir de mars ou avril 2020.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur délibération numéro 10 sur l'eau ? Non. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc c'est voté à l'unanimité. La 11.
Donc la 11, on remplace eau par assainissement. Et donc nous avons le même conseil d'exploitation qui passerait donc de 15 membres à 20 pour l'assainissement dans les mêmes conditions, donc 12 conseillers communautaires et 8 personnes désignées pour leurs compétences. Et sachant que ça rentrera en vigueur à partir du renouvellement des assemblées intercommunales et communales.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions là aussi ? Même chose pour l'assainissement. S'il n'y a pas de questions, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc c'est voté à l'unanimité. Merci Bernard. Je vais passer la parole à Philippe Saès pour marquer un peu une pause. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui se déroule sur l'écran, mais on va vous... Non, bientôt. Donc je vais te laisser la parole pour parler du bus France Service dans le cadre du contrat de ruralité.
Merci Monsieur le Président. Je ne sais pas si j'imagine que ça passe. Je vais donc vous présenter le bus France Service qui est dans sa dernière ligne droite. Je vous rappelle le contexte. Hein, c'est fin 2018. Le contrat de ruralité a été signé entre Mont-de-Marsan Agglomération et l'État. Et dans les projets portés par l'agglomération, il y avait ce service public itinérant qui a vocation donc à desservir les 16 communes rurales de l'agglomération pour apporter le service public au plus près des gens. Les enjeux, donc, rapprocher les services publics, faciliter la vie des habitants des communes rurales et lutter contre l'isolement, notamment suite à la numérisation de tous les services publics, et permettre l'accès aux droits. C'est quelque chose qui a émergé au fur et à mesure de nos réflexions. Alors, j'étais moi-même l'élu responsable, avec comme équipe administrative Frédéric Bedin et Valérie Sadi, qui ont œuvré pour rédiger tous les documents et mener les actions d'acquisition et de formation. Positionnement de ce service, donc, ça sera sous le DGA, avec la responsabilité qui incombe à Valérie Sadi. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, ce sont les 16 communes rurales de l'agglomération qui sont concernées par ce service public itinérant. Alors, l'exemple qui est présenté n'est pas définitif, mais le modèle qui a été retenu, sur 4 semaines, le bus itinérant pourra desservir toutes les communes par demi-journée, 2 fois, une fois le matin, une fois l'après-midi, de manière à ce que les gens qui travaillent le matin ou l'après-midi ne soient pas gênés. Et chaque mois, tout le monde pourra accéder à ce service public itinérant. Il y aura des horaires de bureau qui seront positionnés au niveau du CCAS le lundi matin et le vendredi après-midi, de manière à faire les travaux de synthèse nécessaires et les remontées d'informations vers les partenaires qui sont demandeurs de ce genre de données. Ce circuit a été présenté en bureau des maires, validé par l'ensemble des maires. Donc, globalement, le service public sera positionné à proximité soit de la mairie, soit de l'école, de manière à profiter du Wi-Fi et pouvoir travailler en connexion avec les partenaires que je vais vous présenter. À défaut, il y aura des connexions autonomes qui leur permettront de travailler. Ce qu'il faut noter, c'est que, vous voyez les horaires, ce sont des horaires qui sont atypiques, notamment le soir, de manière à pouvoir permettre aux gens qui finissent le travail en fin de journée d'accéder à ce service public. Ce qui génère une coupure de 4 heures entre midi à la pause méridienne, là, de midi 30 à 16h30. Et donc le service public, le bus reviendra à Saint-Avit au centre technique et les agents qui ont été choisis pourront ainsi déjeuner. Les opérateurs partenaires qui nous sont, les 9 partenaires obligatoires qui nous sont imposés par le label France Service, bon, l'assurance maladie, CARSAT, allocation familiale, Pôle emploi, MSA, SNCF, La Poste, il y a des partenaires que l'on peut rajouter, comme l'ADIL ou le ministère de la Justice qui est également demandeur, le ministère des Comptes Publics. Donc c'est un système qui est ouvert à tous les partenaires potentiels qui souhaiteraient intervenir au plus près des populations à des périodes données. Ça peut être au moment des impôts, notamment le Trésor. Alors, avec qui nous travaillons? Donc, 2 agents qui seront en permanence au sein de ce véhicule. Ça aussi, c'est imposé par la labellisation. Et nous avons recruté également un agent qui sera en remplacement pour pallier toute éventuelle absence des 2 agents titulaires. Alors, nous avons cherché en interne s'il y avait des personnes intéressées. Et évidemment, ça a été un grand succès. Il y a eu beaucoup de monde qui s'est présenté. Nous en avons choisi 3. Audrey Destout, Sophie Persillon et Stéphanie Massoni, que je demande de vous lever pour que tout le monde vous voie. Voilà, les 3 agents qui ont été recrutés en interne. Tu les vois pas? Il y en a qui vous voient pas. Voilà, merci. Donc, Le jury s'est déroulé fin novembre. Et puis, pour elle, se sont succédés toute une série de formations. Formations au sein du CNFPT dans un premier temps générique, mais également avec tous les partenaires dont je vous ai parlé précédemment, de manière à ce qu'elles aient et connaissance des référents qui seront en place dans ces entreprises, mais également de qu'elles aient une connaissance suffisante pour répondre à toutes les questions des administrés. Alors, le côté pratique, il fallait un camping-car. Il est en cours de livraison. Il sera livré au mois de mars. Il sera livré équipé. Donc, il permet de disposer à l'intérieur de deux bureaux séparés qui permettent la confidentialité lors des entretiens, avec également toute l'informatique nécessaire, que ce soit ordinateur, imprimante, scanner, liaison satellite si besoin. Donc il sera complètement autonome. La formation, j'en ai parlé, elle est en train de se terminer. Donc l'objectif, c'est que dès la fin du mois de mars, début du mois d'avril, ce service soit opérationnel. Le principe, les agents ne vont pas se substituer aux partenaires. Hein. Il faut bien retenir que c'est une mission d'accompagnement avec une réponse de premier niveau qui permet aux administrés de ne pas repartir avec juste un numéro de téléphone, mais avec un début de réponse, voire une réponse complète. Alors le budget, 80 000 euros TTC, c'est l'ordre de grandeur, hein, c'est un peu plus. 80 000 euros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est subventionné à 80%. Pour l'agglomération en investissement, l'agglomération ne financera que 20% de l'investissement. Et de la même façon, en fonctionnement, nous avons également une subvention parce que le premier service itinérant de France Service du département a droit à une subvention de 34% de l'État. Et comme nous sommes les seuls du département à avoir un service itinérant, eh bien, la subvention est pour nous. Donc nous récupérons ces 34% de frais de fonctionnement, ce qui est non négligeable. Alors, pour que ça réussisse début avril, comme je vous l'ai dit, nous allons commencer à faire une communication vers les habitants du territoire, mais également une réunion est prévue avec les secrétaires de mairie, de manière à qui seront les relais entre les habitants et ce service public, via les agents du bus France Service, évidemment, et l'ensemble des services des collectivités. Je crois que c'est la condition de la réussite, c'est d'avoir une communication efficace et au rendez-vous du 1er avril. Je vous remercie de votre écoute. Et je vous passe la parole.
Merci beaucoup, Philippe Saès. Est-ce que vous avez des questions complémentaires sur ce dispositif? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous voudriez revenir de cette présentation? Non. Bon, juste avant que nous passions au vote, rebondir sur ce qui vient. D'abord, remercier Philippe Saès d'avoir mené de main de maître ce dossier-là, qui est vraiment un dossier communautaire, hein, parce que là, on est vraiment sur un service en plus, notamment dans les communes rurales. Je le dis sans frein, ce n'est pas un centre social itinérant, même s'il y a une dimension aussi qui peut l'être. C'est vraiment une boutique multiservice. Et pour avoir participé plutôt à la fin au recrutement des personnels concernés, on sent des gens très très motivés dans une aventure un petit peu, même si les choses sont cadrées. Une aventure positive qui ne marchera, et vous l'avez compris, Philippe l'a dit, que si on joue le jeu. Parce que quand le bus va arriver le premier jour sur la première place de village, il n'y aura pas la queue, à mon avis, au départ. Hein. Donc il faut qu'on amorce un petit peu. Alors je vais challenger les maires, mais il faut qu'on amorce un petit peu la pompe. Et c'est vrai que les secrétaires de mairie, les élus que nous sommes... Et les élus qui seront là demain, on a un rôle à jouer pour que justement la... Voilà. Sachant que les premiers mois sont importants, notamment dans la qualité qu'on apportera en termes de conseils. Nous ne sommes pas uniquement des distributeurs de numéros verts. Donc voilà. Mais c'est une chouette réalisation, en tout cas, dans le cadre du contrat de ruralité. Sur ce dossier-là, qui est le numéro 12, qui est contre, qui s'abstient, merci beaucoup. Donc c'est voté à l'unanimité. Merci Philippe Saès. Sur le 13, donc c'est la délibération qui reparle de la passe à poisson. J'ai un peu l'impression qu'on en a parlé tous les ans de la passe à poisson. Donc on y arrive. Je vais laisser la parole à Bernard Kruzinski.
Merci, Monsieur le Président. Oui, c'est une affaire importante dans le cadre de la trame bleue et de la continuité écologique. Donc depuis septembre 2017 et le 1er janvier 2018, la communauté d'agglomération a pris la compétence GEMAPI, donc gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Par ailleurs, dans le cadre du CGCT, on prévoit que le transfert de compétences entraîne de plein droit l'application et la mise à disposition des biens, équipements et services publics nécessaires à cet exercice. Or, donc, la ville de Mont-de-Marsan possède un ouvrage hydraulique qui est appelé passe à poisson, qui est donc la propriété de la ville de Mont-de-Marsan. Et pour que l'agglomération puisse s'en occuper au travers d'une délégation auprès des syndicats de la rivière, il faut donc une mise à disposition de cette passe à poisson. La mise à disposition entraîne les travaux d'entretien, les équipements. Elle reste quand même propriété de la ville de Mont-de-Marsan, hein, et on pourra éventuellement retransférer au syndicat de rivière du Midou, en l'occurrence, l'entretien de cette passe à poisson. Donc il s'agit de signer une convention entre la ville et l'agglomération pour transférer la passe à poisson de la ville de Mont-de-Marsan à l'agglomération.
Avec plaisir. Juste, vous avez bien compris l'usage de ce... Donc c'est la passe à poisson, c'est dur à dire. C'est celle qui est sur le bras droit de la minoterie et qui permet à certaines espèces de remonter et d'aller frayer sur la Douze jusqu'à Roquefort. J'ai demandé aux fédérations de pêche et autres s'ils avaient recensé des espèces particulières. Où, alors, en effet, les kayakistes, les pêcheurs et autres ont repéré qu'il y avait quand même un peu plus de poissons et certaines espèces. Mais voilà, ils se lancent aussi dans un diagnostic plus précis pour qu'on sache exactement si cette passe à poissons est efficace et permettre que des espèces puissent frayer et se reproduire sur la Douze. Voilà. Sur cette cession, entre guillemets, de la ville vers l'agglo de cette passe à poisson, qui est contre, qui s'abstient, donc c'est voté à l'unanimité. Je vais passer la parole à Hervé Bayard concernant la carte achat.
Merci, Monsieur le Président. Donc en effet, on avait déjà adopté une délibération concernant cette carte achat, mais la personne qui était associée à cette carte ayant quitté ses fonctions... il faut que nous adoptions une nouvelle délibération en l'attribuant à une autre personne. Donc cette carte avait été précédemment attribuée à R.L. Boulier, qui était secrétaire du cabinet du président. Et dorénavant, cette carte sera attribuée à Mme Sandrine Persillon, qui est également secrétaire au cabinet du président.
Carte qui permet de réaliser des achats plafonnés, bien évidemment, et plus rapides, notamment sur des réservations directes pour des billets de train ou des choses comme ça. Qui est contre ? Monsieur.
Alors, c'est pas la délibération du siècle, j'en conviens. Mais enfin, quand je vois les nouvelles conditions, 30 euros par mois et 0,90% pour chaque transaction, ce qui n'est qu'une banale carte bancaire plafonnée qui interdit les retraits... C'est le prix d'une carte American Express Platinum, quoi. Donc je trouve que c'est un peu cher, la caisse d'épargne. C'est tout. On fait des exploits ailleurs, mais là, c'est pas un exploit.
D'ailleurs, ça me fait penser que je ne prendrai pas part au vote, puisque, indirectement, je suis lié à ce groupe. Et deux, je ne suis pas habitué, comme vous, à avoir dans la main une carte Platinum, mais...
Où elle est, à 330 euros, 300 même plus, 360 euros par mois avec des commissions à 0,90%, ça me paraît un peu excessif. Ça pourrait être négocié. La vie est faite de détails, mais voilà.
C'est 30 euros par an, hein. Par mois ?
Ça fait 360 euros par an.
Oui, ça fait un peu cher. Bon, on donne mandat à notre direction d'essayer de renégocier. Voilà. Je ne prends pas part au vote pour ma part. Donc sur ce vote-là, qui est contre, qui s'abstient, une abstention. Et donc, je vous remercie. C'est voté à la majorité. Je vous parle de l'enveloppe de la dotation de solidarité communautaire. C'est la délibération numéro 15. Donc on applique strictement les règles qui avaient été édictées en 2016. Des critères ont été définis dans lesquels il y a plusieurs critères qui peuvent être l'écart de revenus par habitant de la commune avec le revenu moyen par habitant, des notions de potentiel financier ou fiscal. Voilà, toutes ces règles-là, vous les connaissez. Vous avez un tableau de répartition que nous reconduisons en respectant à la lettre ces règles. Je note simplement dans les répartitions que vous voyez que les moyennes de DSC, de dotation de solidarité communautaire par habitant, sont les suivantes. La moyenne en France, c'est 31 euros, pour que vous ayez un ordre d'idée. On fait cette moyenne-là sur les 282 EPCI qui ont mis en place ce dispositif de dotation de solidarité communautaire. Donc vous voyez que la solidarité communautaire s'exerce à différents niveaux. On a parfois des communes qui sont un petit peu au-dessus de la moyenne, d'autres au-dessous, mais globalement, on est un petit peu au-dessous de la moyenne nationale, puisque c'est 27 euros en bas. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération qui entérine la répartition de la DSC ? Vous voyez que sur Mont-de-Marsan, elle est à 21 euros par habitant. Voilà. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Je vais passer la parole à Delphine Salambier pour nous parler de l'attribution des aides financières sur le réseau des 8 ou 9 bibliothèques que nous avons dans nos communes. Delphine Salambier.
Oui, merci Monsieur le Président. Alors comme vous vous en rappelez, lors du dernier conseil communautaire, nous avions modifié les statuts de l'agglo de Mont-de-Marsan Agglomération en y ajoutant la compétence facultative à la compétence le soutien aux bibliothèques de réseau. Alors maintenant que cette phase est terminée, il faut maintenant redéfinir les modalités de subventionnement et pour cela, il vous est proposé un nouveau règlement d'attribution que vous avez en juin pour les aides financières au réseau lecture publique. Alors, ce règlement fixe les conditions, les modalités d'attribution et les montants des aides financières de Mont-de-Marsan agglomération pour la lecture publique, et elle est de deux ordres. Alors, d'abord, une aide financière aux communes pour leurs dépenses de personnel, c'est-à-dire une prise en charge de 25% des dépenses du personnel allouées pour assurer les horaires d'ouverture au grand public de la bibliothèque communale. Et le deuxième ordre, c'est l'aide financière aux communes pour leurs actions d'animation. C'est-à-dire qu'une aide forfaitaire annuelle maximum de 1 250 euros par bibliothèque sera accordée pour la réalisation d'animations qui visent la promotion de la lecture publique. Il est évident que si certaines bibliothèques veulent se fédérer autour d'un même projet, elles peuvent tout à fait le faire. Voilà. Donc il nous est demandé simplement d'approuver en lieu et place ce règlement d'attribution des aides financières aux bibliothèques communales.
Merci beaucoup Delphine. On parle de Binquet, Bougues, Campagne, Gaillères, Jeloux, Puy-de-Sault, Saint-Martin-Donnet, Saint-Perdon. J'en oublie pas. Donc voilà, c'est le... Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération ? Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est voté à l'unanimité. Je passe la parole à Jean-Marie Esquier pour la partie scolaire et la dissolution du syndicat Igos Jeloux.
Merci, Monsieur le Président. Il est proposé donc au Conseil communautaire le principe de la dissolution du syndicat mixte scolaire Igos Saint-Saturnin Jeloux. Mont-de-Marsan Agglomération souhaite, en accord avec les communes d'Igos et de Jeloux, solliciter auprès de Monsieur le Préfet la dissolution de ce syndicat au plus tard le 31 août 2020. Au plus tard, j'insiste bien, pour permettre de réaliser les formalités de dissolution. La demande de dissolution par les membres du syndicat est justifiée par la cohérence avec les limites territoriales et le respect de la carte scolaire, notamment au titre des secteurs collèges. Au demeurant, c'est un enjeu de simplification de gestion, mais également de cohérence au niveau du projet territorial. Une réunion publique a été organisée, bien sûr, en octobre avec les parents d'élèves. Toutefois, la procédure juridique de dissolution paraît nécessaire en amont de la liquidation du syndicat de prévoir des points de vigilance. Le premier concerne le nouveau regroupement des communes qui souhaitent développer une offre de qualité pour la rentrée 2020, c'est-à-dire Jeloux, Saint-Martin et Campette. D'évaluer l'impact, bien sûr, de la dissolution au regard de la problématique transport. Je rappellerai à cette occasion que le projet pédagogique apparaît adapté aux besoins constatés et répond à la volonté commune des collectivités. que cette évolution du maillage territorial des écoles dans un contexte de baisse démographique marquée et durable, comme on l'a vu dans le cadre de l'étude prospective, permet de mettre en place des circonscriptions cohérentes du premier degré avec des périmètres de l'intercommunalité, que l'organisation revêt de nombreux avantages et des perspectives d'évolution pour les enseignants, les élèves, mais aussi les territoires concernés, notamment en matière de rupture d'isolement, d'évolution de la qualité de l'offre, je l'ai déjà dit, de l'égalité des chances, bien entendu, de la mixité sociale et enfin de la synergie communale et de l'attractivité du territoire.
Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération numéro 17 ? Pas de questions. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Je laisse la parole à Jean-Marie pour les deux autres délibérations, notamment le syndicat mixte Petite Hollande.
Donc, il est proposé également la dissolution du syndicat mixte scolaire des Petites Landes. J'apporterai des précisions spécifiques. Je ne reprendrai pas les grands principes qui sont valables également pour ce CIVU. Cette demande de dissolution émane des communes de Laquis et Sainte-Foy suite à la mise en place de la carte communale pour la rentrée de septembre 2019. À cette occasion, il y avait eu une fermeture de poste. Le syndicat s'était prononcé pour une fermeture sur la commune de Sainte-Foy. Et donc, les deux communes, en réaction, ont demandé cette dissolution. Et donc, dans les mêmes conditions, je passe sur les motivations qui sont les mêmes, hormis que Sainte-Foy revendique le maintien de son école. Les principes sont les mêmes. Il convient de regarder avec précaution la mise en œuvre de cette nouvelle offre globale sur le versant communauté d'agglomération avec Bostens, Gaillères et Pouilly-de-Sault et d'analyser les impacts transport, mais qui seront certainement plus neutres dans ce secteur qu'ils ne le seront du côté de Saint-Martin-d'Aunay, Gelouse, Campette. Toujours la décision de principe, bien sûr, avec comme date cible le 31 août, avant le 31 août si possible, puisque là il y a débat avec les communes de la communauté voisine.
Merci Jean-Marie Esquier. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc c'est voté à l'unanimité. La dernière pour le scolaire, l'actualisation du coût du forfait élémentaire et maternel. Jean-Marie Esquier.
Tout à fait. Nous revenons tous les ans devant vous pour ajuster le coût du forfait d'école élémentaire et maternelle servant au calcul de la participation des communes extérieures pour les élèves scolarisés sur le territoire de Mont-de-Marsan agglomération. L'actualisation de ces barèmes à partir des comptes administratifs de 2019 vous propose un coût maternel à 1 000 €. Excusez-moi, je parle de mémoire, je me suis perdu le montant. Il n'est pas très loin. 1 277 pour les maternelles et 524 pour les écoles élémentaires. Bien entendu, ces redevances sont appelées sur la base du code de l'éducation. Il y a 4 cas principaux.
Merci bien. Est-ce qu'il y a des questions sur cette actualisation, Mme Soulignac ?
En fait, je profite du dossier éducation pour glisser une intervention un peu plus transversale. Je vais finir ce mandat comme je l'ai commencé, c'est-à-dire en réclamant des documents demandés et promis afin qu'ils soient effectivement transmis, ce qui fut encore le cas à la dernière commission éducation. Tout au long de ce mandat, nous avons été régulièrement confrontés à la difficulté d'avoir accès aux documents. Même si, et cela doit aussi être noté, certains présidents de commission essayaient pour leur part de répondre de leur mieux à nos demandes. Si nous revenons là-dessus, un peu lourdement nous en convenons, c'est parce que ce fonctionnement pénalise les élus de l'opposition, voire même peut-être au-delà. Outre l'information des conseillers communautaires, il y a la question des éléments mis entre les mains de l'ensemble des conseillers municipaux des 18 communes pour qu'ils puissent participer activement aux affaires de la communauté d'agglomération. Aussi, Monsieur le Président, avant de quitter cette Assemblée, je souhaite formuler deux requêtes. Premièrement, pouvons-nous espérer qu'à l'avenir, les élus communautaires disposeront à minima des documents de travail avant les réunions, ainsi que des comptes rendus, et ce, dans un délai raisonnable. Deuxièmement, pouvons-nous espérer que vous accéderez à la recommandation de la Chambre régionale des comptes, à savoir que le rapport d'activité de l'agglo de l'année N soit présenté avant fin septembre de l'année N plus 1. Cette obligation a en effet pour objectif de permettre aux 18 conseils municipaux d'avoir chaque année un débat sur ce qui se passe à l'échelle communautaire. Et à nos yeux, c'est une disposition utile pour le débat démocratique. Je vous en remercie.
Ok. Concernant le fonctionnement de la commission scolaire, je ne sais pas si Jean-Marie Esquier voulait dire quelque chose par rapport à... J'ai compris pour le rapport d'activité, votre question. Par contre, j'avoue, en fait, il vous manquait quoi comme document concernant le scolaire ?
C'était l'occasion de dire que c'était récurrent pendant tout le... Je cible pas particulièrement l'éducation, même si à la dernière fois, on a demandé des documents que je n'avais toujours pas cet après-midi. Mais ce n'aurait pas été grave si ça avait été un cas isolé. Le problème, c'est que ça a été récurrent pendant ces 6 ans. J'ai l'impression d'avoir passé mon temps à réclamer des documents. Voilà. Après, je sais qu'ils me seront transmis, je suppose.
Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Donc là, on est sur l'actualisation, donc sur le fond du dossier, sur le coût du forfait. Est-ce que vous avez des questions ? Non. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Je passe. On grimpe un peu en âge et on parle des jeunes avec Éliane Darteron qui va nous présenter la délibération 20 et 21 sur la carte européenne et la labellisation Sceau Mobilité. Éliane Darteron.
Merci. Donc oui, je vais vous parler de la Convention Carte Européenne Jeune, qui est un programme européen dont la gestion a été confiée à l'association EICA, basée à Bruxelles depuis 30 ans. La Carte Jeune Européenne est un programme visant à favoriser la mobilité des jeunes en Europe en leur proposant des bons plans dans plusieurs secteurs aussi divers que les sports, les loisirs, les transports, la culture ou encore le logement. Ce programme a été lancé en France en septembre 2016 par l'association IDJ France. Elle s'adresse aux jeunes de 12 à 30 ans. La carte est utilisable dans 38 pays d'Europe et ce, quel que soit le pays d'obtention. À ce jour, plus de 7 millions de jeunes sont détenteurs de cette carte. L'objectif du programme est de faciliter et de promouvoir la mobilité des jeunes en Europe tout en favorisant le partage d'expériences, la participation citoyenne et l'information. Le partenariat engagé avec l'association EICA permettra aux jeunes résidents ou ayant une activité sur Mont-de-Marsan agglomération de bénéficier des avantages de la carte jeune européenne, en plus des avantages proposés à Mont-de-Marsan et inversement. L'objet du partenariat est de permettre aux jeunes de l'agglomération de bénéficier des milliers de bons plans en France et en Europe, d'inviter les jeunes européens détenteurs de cette carte à découvrir le potentiel culturel et patrimonial du territoire et enfin de leur permettre de s'épanouir par la découverte des autres et de leur culture. Vous avez trouvé en annexe les conventions qui fixent les modalités, notamment la convention de partenariat EICA Mont-de-Marsan Agglomération, la convention tripartite de partenariat précisant le cadre de la collaboration ainsi que toutes les modalités. La modalité d'achat de cette carte, Mont-de-Marsan Agglomération s'engage à faire une avance de trésorerie pour acquérir pour l'année de 2020 un lot de 100 cartes au tarif de 7,50 € l'unité, valable un an à compter de sa date d'émission. Le partenaire EICA s'engage à reverser tous les trimestres à Mont-de-Marsan Agglomération la somme de 7,50 € par carte achetée. Les jeunes pourront acheter leur carte directement en ligne sur le lien de IDJ France, Mont-de-Marsan Agglomération et EICA. En utilisant ce lien, ils bénéficient du tarif privilégié de 7,50 € au lieu de 10 €. Le jeune recevra sa carte jeune européenne au bureau information jeunesse qui les guideront dans l'utilisation de cette carte. Il est donc demandé à notre assemblée, considérant les missions d'information du bureau de Mont-de-Marsan agglomération en matière d'accompagnement dans le public et dans de nombreux domaines, pardon, tels que l'orientation, l'emploi, les démarches administratives, le montage de projets mobilité. Considérant l'intérêt de ce dispositif carte européenne jeune, il vous est demandé d'approuver la convention de partenariat entre EICA et Mont-de-Marsan agglomération.
Merci Eliane d'Arteron. Y a-t-il des questions? On a été voir sur le site, ça fonctionne. Donc, s'il n'y a pas de questions, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est voté à l'unanimité pour une compétence, la jeunesse, qui est donc désormais une compétence communautaire. On continue avec l'opérateur SO Mobilité.
Alors là, il s'agit d'une convention de labellisation avec l'opérateur SO Mobilité. Les informateurs jeunesse accueillent, informent, orientent et accompagnent les usagers sous forme d'un accueil individuel ou collectif. En 2016, ce service, alors municipal, a été labellisé Eurodesk. Mais l'évolution des missions d'information et d'accompagnement liées à la mobilité internationale des jeunes requiert l'adhésion au dispositif SO Mobilité porté par le Centre Régional d'Information Jeunesse, le CRIJE. SO Mobilité est un service d'information et d'accompagnement à destination des jeunes de 16 à 34 ans résidant en Nouvelle-Aquitaine pour leur projet de mobilité à l'international. La plateforme dédiée permet alors de recenser de nombreuses offres de mobilité dans les quatre grands domaines, études, stages et jobs et volontariat. D'autres types de mobilité sont également disponibles, comme les séjours linguistiques. Il vous est proposé de valider ce partenariat avec le CRIJE et d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention visant à mettre en place les services de SO Mobilité.
Merci, Eliane d'Arteron. Des questions sur ce dispositif? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, c'est voté à l'unanimité. Je vais laisser la parole à Joël Bonnet pour nous parler du rapport annuel concernant la politique de la ville. Joël Bonnet.
Merci, Monsieur le Président. Alors, en préambule de cette délibération, vous remarquez que l'on est amené à parler du rapport politique de la ville de 2018 alors que nous sommes en 2020, tout simplement parce que en 2018, le gouvernement avait indiqué qu'il ferait un travail spécifique sur la politique de la ville et qu'en fonction de ce travail serait déterminée l'orientation du contrat de politique de la ville qui avait été signé en 2015 jusqu'en 2020. Ça s'est traduit par un avenant que nous avons signé en juillet 2019 pour proroger le contrat de ville jusqu'en 2022, ce qui fait qu'à partir de septembre 2019, le travail a pu être fait en fonction de ces directives pour établir le rapport 2018. Donc c'est pour ça qu'on ne peut le présenter qu'aujourd'hui. En résumé, donc le rapport doit reprendre les actions qui ont été menées sur l'année, donc en 2018, avec les principales orientations du contrat de ville, les actions menées sur l'année 2018, l'évolution de la situation dans les quartiers prioritaires, les perspectives d'évolution, l'articulation du contrat de ville avec les opérations du programme national de renouvellement urbain, et les actions menées en matière de développement social urbain financées par la dotation de solidarité urbaine et de dotation de politique de la ville. Tout ce document, ce rapport, a été bien évidemment validé lors de la dernière commission cohésion sociale qui a eu lieu le 30 janvier 2020. Alors pour l'année 2018, je vais simplement m'arrêter sur quelques points qui me paraissent importants, notamment en ce qui concerne les appels à projets qui sont regroupés au niveau des différents acteurs qui interviennent sur le contrat politique de la ville. Ce que l'on peut dire, c'est que sur nos deux quartiers prioritaires, on a de plus en plus d'acteurs qui interviennent et qui sollicitent des financements, puisqu'en 2018, il y a eu 59 dossiers présentés, que l'enveloppe avec les critères qui sont retenus dans les thématiques de contrat de ville, c'est-à-dire la cohérence avec le contrat de ville, les partenariats développés dans le cadre de l'action, le territoire concerné par l'action, la présence ou non de cofinancement et le public touché par l'action. À ce titre-là, une enveloppe financière est cofinancée entre l'État et Mont-de-Marsan Agglomération. Sur 2018, l'enveloppe était de 284 102 euros, avec une répartition pour l'État de 160 102 euros et pour Mont-de-Marsan agglomération de 124 000 euros, comme les années précédentes, sur donc, vous voyez, 284 102 euros sur une demande de subvention au total sur les 59 dossiers qui représentaient 422 802 euros. Donc les thématiques importantes et qui ont été développées sur cette partie-là, c'est notamment en matière du contrat local d'accompagnement de la scolarité avec le dispositif coup de pouce clé, la parentalité et également sur la partie éducation-parentalité au titre de la cohésion sociale. Vous avez dans l'ensemble des documents qui vous ont été remis le compte rendu de toutes ces actions qui ont été menées et notamment les perspectives qui seront mises en place, qui ont été mises en place en 2019 en cohérence avec l'avenant que nous avons signé dans le courant de l'année. Voilà ce que je voulais vous dire.
Merci. Joël, est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport politique de la ville, des choses sur lesquelles vous voudriez intervenir? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc là, c'est vous. Ça se votait, ça, hein? Oui. Non, c'était ça se votait pas. Donc voilà. On en a pris acte. Je vais passer la parole à Philippe Saès pour la numéro 23. Il s'agit du tableau de mise à jour des emplois. Philippe Saès.
Merci, Monsieur le Président. Donc, concernant la mise à jour des emplois, il vous est donc proposé d'actualiser un tableau de la façon suivante. Au 1er mars 2020, une création d'emplois de poste d'adjoint d'animation à temps complet. Au 1er mars, une transformation d'emploi d'animateur principal de première classe en rédacteur principal de première classe à temps complet. Au 1er avril, une transformation d'adjoint technique principal de première classe en adjoint technique. Et enfin, au 1er avril, une création d'emploi d'adjoint administratif principal de deuxième classe. Ces quatre modifications ont reçu des avis favorable des commissions paritaires de septembre et de février, ainsi que du comité technique.
Merci, Monsieur Saès. Est-ce que vous avez des questions sur cette mise à jour des emplois? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Les mises à dispo, Philippe Saès.
Alors là, c'est juste pour prendre acte de l'information concernant les mises à disposition de l'année 2019. Donc, les quatre emplois mis à disposition au profit du SICTOM, de l'OTCA, du Vélo Club Montois et de la ville de Mont-de-Marsan.
Y a-t-il des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, là, on prend acte simplement. Et la dernière délibération, qui est une délibération, qui n'est pas une délibération, on ne vote pas non plus. Donc, Monsieur Carrère, vous avez une heure devant vous si vous voulez que. Il est capable. Allez, on parle de restitution de tablettes. Je vois des gens qui s'activent là, donc à mon avis, il y a une restitution physique des tablettes. Donc je laisse Philippe Carrère nous expliquer tout ça.
Donc Philippe Frédéric Carrère.
Philippe Saès, Frédéric Carrère. C'est pour ça qu'il faut que je continue un peu, j'ai du mal à...
Dans le cadre de l'envoi dématérialisé des séances du Conseil, nous avons été dotés d'une tablette qui a été fournie donc par la communauté d'agglomération. Comme vous le savez, nous vivons ce soir le dernier Conseil communautaire de ce mandat. Je ne dis pas que c'est le dernier pour beaucoup. Aussi, nous vous demandons de bien restituer cet outil en sortant de la salle. Alors, vous pouvez accéder toujours au logiciel Zimbra et Idélibre depuis votre PC. Une notice va vous être remise. En cas de difficulté, vous pouvez avoir l'assistance de notre DSI, M. Guillaume Cramp, ici présent. Et vous avez trouvé sur table, normalement, une lettre de décharge qu'il faut remplir et remettre avec votre tablette à la sortie. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions?
Donc, y a-t-il des questions concernant les tablettes? Sans faire de lien avec l'actualité, vous avez effacé toutes vos vidéos. Bon, juste, je voudrais, pendant que vous sortez les tablettes et juste vous prendre un peu de temps, vous dire que bien évidemment il y a un petit toast et un petit pot et qui est assez symbolique ce soir, puisque c'est comme Frédéric Carrère l'a dit, c'est le dernier conseil communautaire de ce mandat. Donc je voulais juste en profiter pour vous remercier tous les élus qui sont présents ici. Certains ne sont pas là, n'ont pas pu être là, mais vous remerciez tous. Remercier les maires, remercier les adjoints, les élus, remercier aussi très chaleureusement nos services qui ont travaillé sur ce mandat et fait un remarquable travail, avec de nombreux gros chantiers, notamment sur des transferts de compétences et autres. Donc je suis donné à ce qu'on salue leur travail. Remercier aussi les élus de toutes les communes pour la qualité de nos échanges. Saluer tout particulièrement celles et ceux qui ne seront plus là en avril prochain. Alors, je parle de ceux qui l'ont décidé. Il y en a qui seront peut-être plus là sans l'avoir décidé. Mais en tout cas, je voudrais vraiment faire un salut chaleureux à... Alors, bien sûr, Christian Senet, lui, il avait déjà un tout petit peu commencé à sortir un pied de cette assemblée de Bougues. Un salut chaleureux et cher Rose Dupuy, vous le transmettrez à Guy Sibu. Un salut chaleureux à Jean-Yves Parronneau, maire de Bostens. On peut peut-être les applaudir après tout. Ouais. Un salut chaleureux à Robert Villotorte. Alors, cher Jean-Paul Allière, tu lui transmettras notre salut chaleureux. Hein. Et puis, un salut chaleureux, bien évidemment, à Jean-Marie Esquier, maire de Quentin. Et puis un salut chaleureux, mais je ne veux pas, à celles ou ceux qui ont souhaité ne pas reconduire leur mandat, quelle que soit leur position. Voilà, je veux pas clôturer cette assemblée avec une pensée bien forte pour celles et ceux qui ont pu souffrir ou qui nous ont quittés. Je pense notamment à Kitri Sara, élu à Benké, qui nous a quittés en juin 2019. Je voudrais aussi avoir une grosse pensée pour vos proches, vos familles et vos conjoints, parce que souvent la vie d'élu est un engagement qui doit se faire et qui a des impacts sur la vie personnelle. Donc vous transmettrez aussi à vos conjoints ou à vos proches ce salut. Je voudrais également vous dire que je pense à celles et ceux qui briguent un nouveau mandat et je leur souhaite d'obtenir ce qu'ils espèrent. Et puis si ce n'est pas le cas, je leur souhaite de relativiser, car personne, je dis bien personne, n'est irremplaçable. Je voudrais aussi remercier particulièrement les maires et les élus ruraux. J'avais commencé, en tout cas, cette présidence en vous disant que j'étais peut-être le plus rural des urbains ou le plus urbain des ruraux. En tout cas, je voudrais vous dire que c'est grâce à vous que j'ai pu davantage encore prendre conscience de la difficulté d'être un maire ou un élu dans une petite commune, et c'est pas péjoratif dans ma bouche. Donc je voulais vous saluer vos engagements sur ce mandat, vos engagements pour vos communes, bien évidemment, mais saluer le fait que vous n'avez jamais oublié de poser votre casquette de maire pour que nous soyons unis et que nous travaillions aussi pour ce territoire. Donc vive l'agglomération et que le PSG gagne contre Dortmund. Bonne soirée.